Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de choisir votre rendez-vous d'information. Ravi de vous accompagner. Je suis Gisèle Cage pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de ce soir, Ituri, 20 000 personnes raccordées à l'eau potable. Deux systèmes d'adduction construits par le CICR mettent fin aux déplacements dangereux des populations et aux maladies hydriques. La RDC renforce sa présence sur la scène mondiale des minéraux critiques. À Washington, le ministre de Mines met en avant le rôle stratégique du pays et un potentiel géographique encore largement inexploité. Regard croisé sur la conservation en RDC, Yves Milan Ngangaï, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, revient sur les défis majeurs liés à la gestion du parc national de la Lomami. Il est l'invité du journal. En Ituri, un souffle d'espoir pour plus de 20 000 habitants à Kiloeta et Kilomission, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bunia. Les robinets coulent à nouveau. De nouveaux systèmes d'adduction d'eau viennent d'être construits donc par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, offrant enfin une eau potable à des communautés longtemps privées de ce service essentiel. Selon le chef du secteur des Banyari, cette avancée change le quotidien. Les habitants n'ont plus à s'aventurer dans les bas-fonds, zones à haut risque où rôdent des groupes armés pour puiser une eau souvent insalubre. Une infrastructure qui, dit-il, réduit notamment l'exposition aux attaques, mais aussi les cas de violences sexuelles et les maladies hydriques. Un pas important pour la sécurité et la santé des populations. Reportage signé Isaac Remoyope.
Les travaux de construction de ces réseaux de distribution d'eau ont porté sur le captage, la mise en place des points de stockage, l'installation des systèmes de pompage à énergie solaire, ainsi que la construction des bornes fontaines. Ces ouvrages permettent aujourd'hui d'alimenter en eau potable 13 villages du secteur de Banyari Kilo pour un total de plus de 20 000 bénéficiaires directs. Réalisées sur une période de 10 années, ces infrastructures ont été officiellement remises mardi aux autorités locales à la satisfaction de la population. Auparavant, les habitants approvisionner en eau dans des ravins et des puits insalubres situés en pleine brousse. Une situation qui exposait particulièrement les femmes et les jeunes filles aux attaques des miliciens et aux violences sexuelles, explique le chef du secteur de Banyari Kilo. De son côté, les responsables des structures sanitaires locales indiquent que les cas de maladies hydriques étaient fréquents dans la zone. Avec ces nouvelles installations, l'eau potable est désormais disponible au cœur de la cité, renforçant ainsi la protection et la santé de la population. Un rêve longtemps attendu par toute la communauté, aujourd'hui concrétisé grâce à l'appui du CICR, se réjouit Innocent Madoukadala, autorité coutumière locale. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En Nord Kivu, la tension reste vive. C'est jeudi encore, une grande partie du secteur des Katoï dans les territoires de Masisi demeure en proie à une situation plus inquiétante. Selon plusieurs sources locales, les localités des Kaunda et Kirambo ont été hier mercredi le théâtre des violents affrontements entre les combattants de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo déployés dans la zone. Une escalade qui s'inscrit dans la continuité d'incidents armés répétés depuis le début du mois de février, paralysant presque la totalité des activités socio-économiques dans ces secteurs. Et pour comprendre ces climats des crispations qui perdurent, on vous retrouve Élise Chikota.
C'est un calme précaire qui s'observe ce jeudi dans les villages de Kaunda et Kirambo situés dans le secteur de Katoï. D'après les sources locales, ces deux entités ont été secouées mercredi par des combats intenses entre 8h et 13h. Le mouvement rebelle AFC-M23 aurait lancé plusieurs assauts contre les miliciens Wazalendo, notamment ceux du groupe Pareco qui continue de contrôler ces villages. Pour l'instant, aucun bilan officiel de ces affrontements n'est disponible. Toutefois, la situation reste extrêmement tendue. Une grande partie de la population a fui, laissant derrière elle des villages largement vidés de leurs habitants. Selon les informations recueillies sur place, depuis le début du mois de février, les populations de Kaunda, Kirambo, Bitoye, Katoï Centre et d'autres localités du secteur subissent des incidents récurrents de violences armées. Des incursions attribuées à certains groupes Oazalendo ont causé au moins 14 morts ainsi que les viols de 4 femmes, en plus de nombreux cas de pillage des biens dans les ménages. Cette insécurité persistante a entraîné une paralysie presque des activités socio-économiques. Les écoles ne fonctionnent plus depuis le 2 février et la société civile locale alerte aussi une crise humanitaire qui s'aggrave.
Après le Nord Kivu, direction Bukavu, Sud Kivu, la déperdition scolaire y frappe de plein fouet. De nombreux ménages, conséquence directe de l'asphyxie des activités depuis l'occupation de la ville par le rebelle de l'AFC M23. Selon les enquêtes menées par l'ASBL éminent Mwanda Plus, près de 5000 enfants risquent de quitter le banc de l'école, leur famille n'ayant plus le moyen financier pour assurer leur prise en charge scolaire. Un constat amer qui illustre l'impact durable du conflit sur l'avenir des jeunes générations. Les détails dans le reportage signé Jean Kassami.
Les résultats des enquêtes sont inquiétants, comme l'indique le président du conseil d'administration de l'ASBL Éminent Mwanda.
À Bukavu, plus de 5 000 enfants sont au risque d'abandon scolaire si rien n'est fait en urgence. Les enfants qui abandonnent l'école sont plus susceptibles de se tourner vers la délinquance et le banditisme.
Chokano Anne-Marie figure parmi les enfants rattrapés par la situation malgré leur désir de poursuivre les études.
J'étudiais à l'école française de Garale. Je faisais la quatrième année HTS parce que mes parents ne travaillent plus. Je fais le commerce depuis l'occupation de la ville.
Certains parents avouent leur incapacité à supporter la scolarité de leurs enfants. Nombreux ont perdu leur emploi à cause de la guerre. Mugisho Eli.
Moi, j'ai travaillé à Bralima, mais jusqu'à présent, je manque où travailler. Donc, je ne scolarise plus mes enfants suite aux guerres qui se répètent.
Même les commerçants et les créateurs artisanaux sont devenus aussi improductifs, toutes les voies de sortie à l'intérieur étant extrêmement insécurisées. Jean Kassami, Radio Okapi.
Reportage de Jean Kassami depuis Bukavu au sud Kivu. Au Maniema, l'insécurité gagne du terrain. Les incursions d'hommes armés non identifiés se multiplient dans la ville de Kindu. Le dernier cas remonte au week-end dernier. Plusieurs maisons ont été visitées et de biens de valeur emportés par ces hors-la-loi dans le bloc RVA au quartier Basoko. Face à cette montée de l'insécurité, le gouverneur de province est descendu sur le terrain accompagné de membre du conseil de sécurité de son gouvernement pour s'enquérir de la situation. Moïse Moussa Kabwankoubi appelle la population à collaborer avec le service de sécurité afin de neutraliser ses ennemis de la paix. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Quand nous étions à Kinshasa, nous avons appris qu'au niveau du quartier REA et du quartier Salama, il y avait beaucoup de cas de vol à main armée. C'est comme ça que nous avons résolu, au lendemain de notre retour à Kindu, de venir causer avec la population pour savoir ensemble les mesures nouvelles à prendre pour renforcer celles que nous avions prises avant, pour renforcer la sécurité de la population. Beaucoup de gens ont fait des témoignages. Nous leur avons demandé de passer au niveau de la commission mixte ANR Police pour enrichir les dossiers à envoyer à la justice. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand on a attrapé les voleurs, la police les retient pendant 48 heures et après 48 heures, il va les transmettre à la justice. Mais souvent, les dossiers sont vides. Et c'est comme ça que certains magistrats verraient, profitent de l'occasion pour accorder des libertés provisoires à ces criminels. Mais là, nous n'allons plus envoyer des dossiers à la justice sans qu'ils ne soient bien étoffés. En dehors de ça, nous avons sensibilisé la population qu'elle soit solidaire, qu'elle n'attende pas les tours des uns et des autres pour s'impliquer.
Et sur le plan diplomatique et économique, l'actualité mène cette fois à Washington. Le ministre congolais des Mines a pris part à la toute première réunion ministérielle consacrée aux minéraux critiques organisée ce mercredi 4 février par le gouvernement américain. Un rendez-vous qui a rassemblé plus de 50 délégations internationales dans la capitale fédérale. Louis Wantum Kabamba y a salué l'initiative des États-Unis visant à renforcer la la coopération autour des chaînes d'approvisionnement responsables en minéraux stratégiques. Il a rappelé le rôle majeur de la RDC dans la transition énergétique mondiale avec plus de 70% de la production mondiale des cobalt et près de 10% de celle du cuivre. Le ministre a également souligné que les exportations minières du pays ont dépassé 25 milliards de dollars en 2024 tout en mettant en avant un potentiel encore largement exploité. Plus de 90% de réserves géologiques nationales restent à explorer pour une valeur estimée à plus de 25 milliards de dollars. Faisons le point avec Alain Irong.
Le ministre des Mines a réaffirmé l'ambition stratégique de la RDC, évoluer d'un modèle extractif vers une chaîne de valeur intégrée, industrielle et technologique, créatrice d'emplois et de valeurs durables. Il a présenté les grandes initiatives structurantes en cours, notamment le projet MIFOR dédié au développement des ressources en minerais de fer de la Grande Orientale, ainsi que les programmes nationaux d'exploration destinés à élargir l'offre mondiale en minéraux critiques. S'inscrivant dans le cadre des partenariats stratégiques en cours, la RDC a confirmé sa disponibilité à développer conjointement des actifs miniers à fort potentiel dans le respect des cadres juridiques, de la transparence et de la prévisibilité réglementaire. Louis Watum Kabamba a également salué les récentes annonces concernant une initiative emblématique lancée à Washington DC ces derniers jours. Il s'agit du projet VOLT, initié par une société implantée en RDC, aux côtés du président Donald Trump à la Maison-Blanche, représentant une réserve stratégique américaine de minéraux critiques d'une valeur de 12 milliards de dollars.
À Kananga, les engins ont enfin recommencé à tourner. Les travaux d'asphaltage des avenues inscrites dans le projet Chilegelu ont repris ce mercredi après 3 années d'interruption dans la province du Kasaï central. L'entreprise Arab Contractor a relancé les chantiers qui couvrent 35,6 km de voirie urbaine et vise à moderniser les réseaux routiers de la ville. Une reprise très attendue, accueillie avec satisfaction par de nombreux habitants des Kananga. Les détails avec André Katende Ngalamulume.
Les travaux ont déjà démarré sur les avenues Mukengi Shabantu, Kasavubu et Dr. Etienne Tshisekedi, ex-Makar. Selon Johnny Kula, directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD, qui est maître d'ouvrage, ce lancement marque un nouveau départ après 3 ans d'arrêt.
Nous sommes en train de faire la première pose des enrobés sur la ville de Kananga dans le cadre du projet Chilegelu. Et c'est un départ où nous n'allons pas nous arrêter ici.
La population salue cette reprise des travaux. Certains habitants rencontrés sur place expriment leur satisfaction.
En voyant les goudons, vraiment, je suis très très à l'aise et très contente aussi.
Nous avons un sentiment de satisfaction en voyant la firme Arab Contractor commencer déjà l'asphaltage. C'est pourquoi vous nous voyez très joyeux.
Lancé en 2021, le projet Chilegelu avait été interrompu à Kananga en janvier 2023. À la suite de la résilience du contrat de l'entreprise chinoise Kekset, initialement chargée de son exécution. Kananga, André Katendengalamulme, Radio Kapi.
Direction Mbandaka, où un climat politique qui s'est crispé, un groupe se présentant comme des citoyens révoltés hausse le ton. Il réclame du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la dissolution pure et simple de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Une demande formulée dans une pétition rendue publique en début de semaine devant la presse locale. Le signataire accuse l'institution provinciale de s'ingérer dans la gestion quotidienne des affaires du gouvernement provincial. Les détails d'Askan Zibia Tayoro.
Ces citoyens ont déjà lancé une campagne de collecte de signatures auprès de la population de Mbandaka. Selon eux, plus de 25 000 signatures suffiraient pour exiger la dissolution de l'Assemblée provinciale de l'Équateur au regard de manquements graves qu'ils disent avoir observés dans l'exercice de fonction des députés provinciaux. Papi Ekate Ekofo, rapporteur de Citoyens révoltés, énumère quelques dérapages documentés.
Il est constaté que les députés provinciaux se substituent illégalement à l'exécutif provincial. Ils procèdent à des remplacements arbitraires d'agents et fonctionnaires de l'État. Ils interfèrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des chefferies traditionnelles.
De son côté, l'Assemblée provinciale de l'Équateur estime que cette pétition n'a aucune valeur juridique permettant de provoquer sa dissolution, comme l'a indiqué son rapporteur Ezekiel Ambokani.
Les allégations laissent croire à un quelconque conflit entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant ne tiennent pas. Car, en réalité, la collaboration entre les deux institutions reste harmonieuse et orientée vers le développement intégral de la province.
Selon certaines indiscrétions en Mbandaka, plusieurs députés provinciaux se comporteraient comme des commissionnaires intervenant notamment pour faire recruter leurs proches au sein des institutions publiques.
À Mwanda, une opération humanitaire d'envergure vient d'être lancée. Ce mercredi, la ville du Congo central a donné le coup d'envoi de l'initiative Zéro Cadavre d'Indigent à la morgue de l'hôpital général de Mwanda, portée par l'élu provincial Jean Kimboko Ndombasi. L'action vise à désengorger d'ici mars l'unique morgue de cette zone littorale de la RDC. Dans une déclaration à Radio Capi, le député a expliqué que la chambre mortuaire fait face à un surpeuplement des dépouilles d'indigents, une situation qui empêche désormais d'accueillir de nouveaux corps. Pour garantir le succès de l'opération, il appelle à la mobilisation de toutes les personnalités influentes du territoire de Mwanda. Les précisions de Jean Kimboko Ndombasi au micro de Nana Plurich Mambou.
Cette opération vise à désengorger cette morgue qui regorge aujourd'hui près de 50 corps d'indigents qui attendent encore leur inhumation après plusieurs mois faute de moyens. La situation est plus qu'alarmante, de telle enseigne que les nouveaux morts peinent à se trouver des places. L'autorité locale que nous avons vue est déjà dépassée, bien qu'elle a déjà mobilisé une dizaine de cercueils. Moi, en tant qu'élu provincial, j'apporte ma main d'association tout en faisant également appel aux autres partenaires au niveau local. Et nous voulons, au plus tard le 1er mars, zéro indigent dans cette morgue de l'hôpital de référence de Mwanda.
Actualité internationale.
Au Nigeria, l'onde de choc se poursuit après l'un des massacres le plus meurtrier de ce dernier mois. Le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement immédiat de l'armée dans une zone du centre-ouest du pays après l'attaque qui a coûté la vie à au moins 162 personnes mardi soir dans le village des Woro dans l'état des Kwara. Dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi par son conseiller spécial Bayo Anonuga, le chef de l'État accuse le groupe djihadiste Boko Haram d'être à l'origine de cette attaque d'une violence exceptionnelle. Pour établir la sécurité, il a ordonné l'envoi d'un bataillon militaire dans la localité des Kaihama, dans l'est de l'État. Cette intervention baptisée Savannah Shield vise, selon la présidence, à neutraliser les terroristes et à protéger les communautés vulnérables de la région.
L'invité.
Notre invité du jour, c'est Yves Milan Gangaï, directeur général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, l'ICCN, en mission à Kindu après avoir pris part à la réunion extraordinaire du comité de coordination du site des Kokosi. Il revient pour nous expliquer donc les enjeux et les défis liés à la gestion du parc national de la Lomami. Yves Milan Gangaï est au micro de Florence Kizalunga.
Monsieur Milan Yves, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le DG, au mois de juillet, le parc national de la Lomami va totaliser 10 ans d'existence. Quelles sont les avancées à retenir? Et pourtant, à ce jour, la démarcation de sa limite prête encore confusion. D'autres communautés locales qui continuent à résister au parc.
Merci beaucoup. On a eu une réunion de Kokosi, comité de coordination du site du parc national de la Lomami. Je viens aussi à préciser que le parc national de la Lomami, c'est le dernier parc qui a été créé d'ici là, ça va totaliser 10 ans. Il y a des avancées significatives, bien sûr, à part des petites choses qu'on doit régler entre les communautés, peuples autochtones et les parcs et les sites. Mais au moins, d'une façon générale, les choses avancent bien.
Le braconnage bat record au parc national de la Lomami jusqu'à là. Quel mécanisme mettez-vous en place pour l'anti-braconnage au sein du parc national de la Lomami?
Oui, nous avons une section qui s'appelle la lutte contre le braconnage, la LAB. Et il y a eu des présentations ici lors de ces cocos-ci. Ils sont en train d'y travailler. On a fait le bilan de ces dernières années pour les luttes anti-braconnage et quelles sont les perspectives pour les 3 ans qui vont venir. Je pense que nous sommes en train d'y travailler. C'est vrai, c'est un cheval de bataille pour nous. Il y a le braconnage, surtout avec les espèces endémiques qui sont ici, à l'occurrence les bonobos et d'autres espèces phares qu'on trouve, les pans congolais, qu'on trouve qu'ici au parc national de Lomami. Mais nous sommes en train d'y travailler avec l'appui surtout du gouverneur qui s'est impliqué. Vraiment, il a décidé de nous accompagner et je pense que d'ici là, on pourra parler, si pas zéro braconnage, mais au moins, les taux vont diminuer.
Actuellement, la réserve de la Loma est presque abandonnée dans les territoires de Kabamba. Quel sort réservez-vous?
Nous sommes en train d'y travailler. Il y a des contacts même politiques et même sur le plan administratif. Heureusement, on a eu tous les chefs de secteur, chefs de chefferie qui étaient là et ils ont décidé vraiment de nous accompagner pour faire revivre encore cet espace Loama qui a été abandonné mais on peut oublier. Mais nous allons vraiment faire naître l'espoir pour que le peuple qui sont de l'autre côté puisse sentir que les choses sont de revenir à la normale.
Alors, monsieur le DG, quelles sont les retombées de ces assises de 2 jours que vous venez de tenir et présider ici à Kindu dans la province du Maniema?
C'est présenter d'abord les perspectives de notre parc, ce que nous allons faire dans 1 année, 2 ans et 3 ans, et mobiliser aussi des ressources. Et on avait aussi nos partenaires qui gèrent avec nous les parcs en concession. Et je pense que avec les retombées, toutes les recommandations, nous allons mobiliser des fonds pour mieux gérer encore ce parc, la Lomami, qui est un bijou pour la République.
Quelle est la particularité du parc national de la Lomami à d'autres parcs du Congo?
Je dis c'est le seul parc qui a été créé avec une zone tampon. Deuxième, il y a des espèces phares qu'on ne trouve qu'ici. Il y a les pans congolais, nous avons les bonobos, ce sont des espèces phares qui sont répandues dans tous les parcs et c'est un bijou que nous devons protéger.
Un message à la communauté, surtout celle qui est encore au parc national de la Lomami.
À toutes les communautés, aux peuples autochtones, nous les invitons ensemble, main dans la main, pour sauver ces parcs et pour protéger ces espèces et protéger nos forêts, notre biodiversité. C'est la plus grande recherche qu'on peut avoir ici dans la province du Maniema.
Et si on vous demandait de formuler une recommandation au gouvernement congolais pour la protection de ces parcs, quelle serait cette recommandation?
Là, j'en appelle aux autorités politiques, surtout chefs de l'État. Le parc de la Lomami, c'est le dernier, le cadet même de tous nos parcs, mais c'est un parc qui a moins de problèmes et nous demandons vraiment son implication personnelle en tant que garant de la nation, en tant que premier, le conservateur suprême de la République démocratique du Congo. Et depuis qu'il est là au pouvoir, on a senti que sur le plan environnemental, sur le plan biodiversité, les choses sont en train de bouger, surtout avec les projets ambitieux, la création du couloir vert, et je pense que ça peut se dupliquer partout dans d'autres provinces. Et je pense que nous sommes les premiers bénéficiaires.
Monsieur Willan Ngangaï Yves, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était là Yves Milan Ngangaï, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Il s'exprimait au micro de Florence Kizalunga au sujet de la gestion du parc national de la Lomami. Merci d'avoir suivi ce journal des 18h. À la mise en onde aujourd'hui, André Mungu Ebaye. À la coordination, Élisée Chikota. Supervision, Alain Ronk. Cette édition vous a été présentée par Gisèle Cage. Pour des informations détaillées, n'hésitez pas à consulter nos différentes plateformes. Et vous pouvez également réécouter ce journal des 18h en podcast sur notre site www.radiokapi.net. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à vous.